Interview.
RDUA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr en compagnie de Corinne Morel-Darleux.
Bonjour.
Enfin, en compagnie même chez vous, carrément. C'est super.
Et merci, oui, on s'est relocalisé pour cette émission exceptionnellement.
Voilà, puisque donc les locaux de la radio sont toujours en travaux, ce qui me permet de le placer. Et comme là, le canal est très, 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 très écouté grâce à votre popularité, RDUA se déplace. On est 8 places de la République, toujours à 10. N'hésitez pas à venir nous voir. On va parler essentiellement de la plénière des 29 et 30 novembre dernier, autour principalement du budget et de quelques autres sujet. Je voulais juste avant qu'on reparle un petit peu de ces 2 ans, ça fait 2 ans qu'on est ensemble sur cette antenne, 14 mandats radiophoniques, vite fait, qu'est-ce que pour fêter la fin d'année.
Mais c'est amusant justement que vous me parliez de ça, parce que hier j'en parlais encore avec des collègues à la région, et je leur disais que cette idée de faire des comptes rendus de mandats radiophoniques sur RDWA était probablement la meilleure idée depuis le début du mandat. Je trouve que c'est un format qui est vraiment intéressant. J'ai souvent des retours très positifs sur cette émission, parce que c'est l'occasion de prendre le temps de détailler sans langue de bois. Et je crois que voilà, ça permet à pas mal de citoyens du Diois, mais aussi au-delà, hein, au-delà même de la Drôme, de mieux comprendre à quoi sert un élu régional, et puis de mieux comprendre le fonctionnement de cette institution, et de se rendre compte que bah, en réalité, ça a quand même des impacts très concrets sur la vie quotidienne, et que du coup, bah, ça vaut le coup de se mobiliser.
Est-ce que ça a joué sur votre médiatisation personnelle aussi ?
Je sais pas.
Plus sollicité, peut-être ces vidéos sur Reporter, tout ça. Enfin bon, vous étiez déjà en lien avec eux, mais...
Ouais, j'étais déjà en lien avec eux. C'est difficile d'évaluer. Par contre, ce que je sais, c'est que ça m'arrive d'être reconnue par ma voix dans le Diwa. Il n'y a pas très longtemps, j'étais à la librairie et puis j'étais en train de discuter avec le libraire de Mosaïque, et puis quelqu'un s'est retourné et m'a dit « Mais Corinne Morel-Darleux ?» J'ai dit « Oui !» Et en fait, il avait reconnu ma voix par l'émission de RDWA. Donc voilà, c'est assez amusant, et en tout cas, c'est un format qui, pour moi, est aussi très agréable.
Plénière, donc, des 29 et 30 novembre. La question principale, c'était le budget dans une ambiance de chaos, hein, vous m'avez dit, en antenne.
Oui, ça a été une session un peu cataclysmique, effectivement. Bon, d'abord parce qu'on a travaillé dans des délais qui étaient encore plus courts que d'habitude, avec deux sujets très importants. Le budget 2018, hein, qui est quand même ce qui fixe les enveloppes budgétaires de toutes les grandes compétences de la région. Et puis la convention TER. Et on n'a eu que quelques jours pour éplucher des milliers de pages de dossiers sur notamment ces deux sujets. Donc c'était déjà voilà, des conditions de travail un peu compliquées. Et il se trouve que, comme Laurent Wauquiez devait être le soir à un meeting pour le congrès des Républicains à Maison Alfort, il a voulu tout faire tenir sur un jour et demi. Or, évidemment, ça ne pouvait pas rentrer sur un jour et demi. Donc, du coup, tout s'est fait au forceps. On a eu 23 heures de discussion en séance sur 2 jours. Le premier jour, on a fini, il était 1h du matin passé. On a repris le lendemain à 9h. Et tout ça provoque déjà des conditions de débat qui ne sont pas très bonnes, parce que quand vous examinez les rapports liés à la gestion du personnel à 1h du matin, vous imaginez bien que l'attention des élus, elle n'est pas la même. Donc ça, déjà, ça a été assez compliqué. Et puis alors, ce qui a été particulièrement pénible, c'est que dans les coulisses de la région, il faut savoir qu'au moment du vote du budget, c'est également le moment où les différents groupes politiques redéposent la liste des membres de leur groupe. Et il se trouve que là, il y a eu une petite fronde, un début de fronde du côté des centristes au sein même de la majorité de Laurent Wauquiez. Et que du coup, en fait, le premier jour, Laurent Wauquiez, au lieu d'écouter les débats et d'être présent, a passé son temps à faire des allers-retours, de réunions, de couloirs, de pressions, de négociations, etc., pour faire en sorte que ce groupe de centristes soit fait à sa main, d'étouffer le leader de cette petite contestation au centre qui est Patrick Mignola. Et donc, en fait, je pense qu'il n'a dû entendre sur les deux jours qu'à peu près un tiers des propositions qui ont été faites, notamment par l'opposition que nous sommes. Et ce, alors qu'il nous avait enjoint dans le Dauphiné libéré en disant « j'attends de l'opposition de gauche qu'elle fasse des propositions ». Alors voilà, on avait travaillé nos propositions, on a travaillé jour et nuit sur ce budget, on a fait une trentaine de propositions d'amendements qui étaient fouillées, argumentées, sourcées, on est allé regarder ce qui se faisait ailleurs dans les autres régions, on a cherché ligne par ligne dans le budget sur quoi ça pouvait être financé. Résultat, Laurent Wauquiez n'a pas écouté ses propositions. Et comme il a mis au point à la région un système ultra personnalisé, ultra centré autour de sa personne, puisque tout passe par son filtre, quand il n'est pas là, personne n'ose rien dire. Donc en fait, il n'y a pas un membre de sa majorité, de son exécutif, qui a osé prendre la parole sur nos propositions. Donc en fait, elles n'ont même pas été débattues. Elles ont uniquement été systématiquement soumises au vote avec un avis défavorable de l'exécutif, sans un mot d'explication de cet avis défavorable.
Deux questions tout de suite. Une première un peu pernicieuse. Est-ce qu'il y a une tactique au niveau de l'horaire à placer, par exemple, tel ou tel sujet à 1h du matin ? Est-ce que c'est réfléchi ou est-ce qu'il y a un ordre comme ça qui ferait que, comme ça, on sait que plus tard, les gens seront fatigués ?
Alors, c'est vrai que c'est une tactique assez courante en politique, cette tactique de mettre les sujets importants ou polémiques à la fin des réunions en comptant sur l'épuisement des participants. Là, pour le coup, je ne crois pas que ce soit le cas, parce que d'abord, en assemblée plénière, tous les sujets sont importants. Donc, en réalité, là, c'était la gestion du personnel, mais ce serait tombé sur la convention TER, ça aurait été la même chose. Non, là, le problème, c'est surtout de vouloir faire tenir ça en fonction du calendrier de Laurent Wauquiez, alors que très honnêtement, on a été élus conseillers régionaux, on est là pour travailler, et donc ça n'aurait pas été choquant au vu de l'importance des sujets qu'on y passe 2-3 journées pleines avec des horaires qui permettent de maintenir l'attention de tout le monde. C'est surtout ça, et c'est surtout là où il y a une fois de plus un conflit direct entre les différentes casquettes de Laurent Wauquiez qui l'empêchent de tenir son rôle de président de région de manière efficace, correcte et un tout petit peu respectueuse des habitants de la région.
Et sur le fait de vous fournir les documents à étudier très peu de temps à l'avance, on en avait déjà parlé, je ne me rappelle plus à quel, peut-être trop de fois d'ailleurs, c'est toujours là aussi la même tactique, faire en sorte que vous n'ayez pas le temps d'aller au fond des choses. Pourtant, on s'imagine que sur un budget comme ça annuel, ça fait déjà quelques mois qu'on devrait être au courant.
Alors, c'est effectivement assez récurrent, c'est-à-dire qu'en général, on les a à la limite du délai légal, donc c'est pas contestable, malheureusement. Ça l'est parfois parce que nous avons la possibilité, nous, en tant qu'élus, de demander des compléments d'informations pour pouvoir, comme on dit, voter en toute connaissance de cause. C'est prévu par le Code général des collectivités territoriales. Et donc, ça nous est arrivé de faire ces deux demande d'information, de ne pas avoir ce qu'on avait demandé avant le vote, et donc on a des recours qui sont actuellement devant le tribunal administratif pour cette raison. Donc il y a ça d'une part, et puis il y a d'autre part le fait que sur le budget par exemple, on a eu un dossier relativement complet, mais on n'a pas le détail en fait ligne par ligne, c'est-à-dire que on a les grandes sommes qui vont être affectées par exemple au transport, mais on ne sait pas quelle somme va être affectée sur le matériel roulant, quelle somme va être affectée sur telle ou telle ligne. On n'a pas le détail, donc c'est assez compliqué du coup de décrypter vraiment finement quelles vont être les politiques régionales et quelles sommes vont aller sur quel type de dispositif.
Voilà, ce qui avait déjà été décrit d'ailleurs par vous-même dans une autre émission également. Alors le débat sans président de l'Assemblée, ça c'est possible aussi par les textes. On parle du fonctionnement de cette région.
Oui, malheureusement c'est possible. Moi j'ai...
Pardon, juste en Assemblée nationale par exemple, si le président n'est pas là, ils en mettent un autre, un président de session.
Alors là, de fait, il y a toujours effectivement un membre de l'exécutif qui préside, entre guillemets. Là, on a eu plusieurs présidents de séance, notamment Philippe Meunier, si vous vous rappelez de lui, il avait un peu fait parler de lui parce qu'il est également député. C'est lui qui avait proposé, après les attentats, d'armer les députés et les parlementaires.
Oui, j'avais oublié le nom. Mais...
Voilà, c'est le responsable sécurité de Laurent Wauquiez, c'est pas très surprenant. Donc lui a présidé par exemple la séance au tout début, et il se trouve que j'ai été la première à intervenir puisque je présentais les deux premiers amendements. Et donc je me suis effectivement étonnée, parce que c'était des amendements qui portaient sur les questions d'agriculture et de forêt, je me suis étonnée que ne soit présent ni le président de région, ni le vice-président à l'agriculture au moment de présenter ces amendements, et donc de ne pas avoir leur avis, et que ce soit M. Meunier, responsable de sécurité, qui me réponde sur des questions d'agriculture et de forêt. D'ailleurs, visiblement, il n'a absolument rien compris à ce que je lui ai proposé. Et il m'a été répondu par Laurent Wauquiez un peu plus tard que l'exécutif était un et indivisible, et que donc quand un membre de l'exécutif nous répondait, il parlait pour l'ensemble de la majorité. Donc voilà, dont acte. Le problème, c'est qu'on a du coup en face de nous parfois des interlocuteurs qui ne connaissent strictement rien au domaine sur lequel nous intervenons.
Budget 2018, qu'est-ce qu'on devrait retenir selon vous, pour s'indigner peut-être, ou au contraire s'enorgueillir, s'il y a moyen.
Ce qu'il faut bien comprendre sur la logique de ce budget présenté par Laurent Wauquiez.
D'ailleurs, juste au passage, hein, vous avez fait quelques vidéos, des tutos, hein, comme on dit, pour décrypter ce budget. Hein. Comme ça,
oui,
on peut
tout à fait.
Et puis, là-dessus.
Et puis j'ai aussi raconté tout ça sur mon blog en 5 billets assez fournis et détaillés pour ceux qui ont envie d'en savoir plus. La logique de Laurent Wauquiez pour ce budget, c'est une logique de quelqu'un qui veut faire la démonstration d'ici aux prochaines élections présidentielles en France en 2022 qu'il est capable de diriger le pays. Donc, il se sert de la région comme d'une vitrine pour faire cette démonstration. Et donc, lui, son intérêt est de montrer qu'il est capable de faire ce qu'il appelle des économies, de bien gérer de ce point de vue la région, et donc d'obtenir des bonnes notes des agences de notation financière, et notamment il vise clairement le triple A de Standard & Poor's. Ça, c'est clairement son objectif.
Pardon, alors comme ça, j'apprends que les régions peuvent être notées comme la France l'est.
Absolument, tout à fait. Et d'ailleurs, la région Auvergne-Rhône-Alpes est passée de AA- à une notation de AA. Par cette agence Standard & Poor's, et Laurent Wauquiez en a fait des tonnes de jubilations, se félicitant de cette bonne note et s'enorgueillissant d'avoir fait réaliser des économies par la région. Sauf que quand on regarde d'un petit peu plus près ce qu'il appelle des économies, on se rend compte que, par exemple, dans les millions qu'il affiche en termes d'économies, eh ben, il y a, par exemple, la baisse de 60 millions d'euros depuis le début du mandat sur la formation professionnelle. C'est-à-dire que sur une des compétences majeures de la région, qui est de l'aide directe, hein, aux chercheurs d'emploi, à plein de gens qui ont besoin de se former, eh ben, il y a 60 millions d'euros qui, soi-disant, ont été économisés, qui, en réalité, sont de l'argent public qui n'a pas été utilisé au service direct des habitants de la région. Voilà le type d'économie dont est très fier Laurent Wauquiez, et qui, en réalité, est en train de nous faire prendre énormément de retard. Parce que cette casse, par exemple, de la formation professionnelle nous empêche de préparer les emplois de demain. On est, par exemple, une des dernières régions à ne pas nous être pourvus d'une agence régionale de la biodiversité. Il y a déjà 6 régions qui l'ont fait, 2 qui sont en cours. Nous, on a déposé là un amendement pour s'en étonner et proposer du coup que dans le budget 2018, on prévoit de enfin créer cette agence régionale de la biodiversité. Ça a été à nouveau un refus. Donc on est en train de prendre du retard sur les questions sociales, sur la formation professionnelle, sur la biodiversité, sur le développement de tout un tas de thématiques, tout ça pour pouvoir afficher un triple A. C'est un vrai souci, parce que du coup, Laurent Wauquiez est en train de perdre de vue les besoins réels des habitants, la réalité de ce qui se passe sur le terrain, juste pour pouvoir afficher une bonne note financière, ce qui est évidemment un très mauvais indicateur par rapport à ce qu'on devrait faire en matière de politique publique.
Et on peut imaginer d'ailleurs que cette note monte parce qu'il y a de l'investissement et puis une activité économique forte. Ah bah pas uniquement parce qu'on fait des économies.
Absolument, elle pourrait, effectivement monter. Alors c'est aussi pour ça que nous, avec le groupe du Rassemblement, tous les amendements qu'on a proposés, on les a proposés selon d'autres indicateurs. Partant du principe que les indicateurs financiers habituels, que ce soit ceux de Standard & Poor's ou que ce soit le produit intérieur brut, hein, le fameux PIB qui est toujours utilisé pour déterminer la bonne santé d'une économie, en réalité, ces indicateurs, ils sont très mauvais parce que le PIB, par exemple, si vous avez un accident de voiture, que vous êtes hospitalisé, que vous devez faire réparer votre voiture, que vous appelez une dépanneuse, etc., tout ça se reflète dans le PIB comme une augmentation de croissance parce que vous créez de l'activité économique. Donc vous avez un accident de voiture, le PIB augmente. On voit bien que c'est absolument ridicule d'utiliser cet indicateur comme boussole politique. Donc nous, on s'est basé sur d'autres indicateurs qui existent et qui prennent en compte l'empreinte écologique, qui prennent en compte l'indice de santé sociale de la région, voilà, les questions d'éducation, de santé, d'emploi, enfin voilà, des indicateurs un petit peu plus larges. Et donc on a basé tous nos amendements budgétaires sur la base de ces indicateurs qui nous semblent être un reflet plus intéressant quand même du bien-être et du bien-vivre des habitants de la région.
Donc si je nous résume un peu, c'est un budget de campagne pour prouver une bonne gestion vers le bas. On fait des économies au maximum. Donc là, encore des grandes coupes prévues pour 2018.
Alors malheureusement, pour l'instant, on n'a justement pas le détail qui nous permet de savoir où ça va tomber. Donc on ne sait pas quels vont être les bénéficiaires des sommes qui ont été votées. Ce qu'on sait par contre, pour reprendre un exemple qui, comme vous le savez maintenant, m'est cher, c'est que sur la question des canons à neige, on va à nouveau avoir 25 millions d'euros, puisque là c'est une ligne spécifique qui a été inscrite au budget. Il faut savoir qu'on en est déjà à 31 millions d'euros d'argent public régional investi dans l'enneigement artificiel, parfois sur des stations qui sont à des altitudes qui malheureusement ne vont pas permettre à ces canons de fonctionner encore très longtemps parce que les températures ne seront pas suffisamment froides dans les hivers qui viennent. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est toutes les études des réseaux, notamment de Sentinelles des Alpes, de Météo France, de l'IRSTEA, enfin bon, de tous les
stations elles-mêmes,
scientifiques qui s'intéressent à la question. Donc là-dessus, on va continuer à essayer de faire entendre raison à nos décideurs régionaux et notamment à Gilles Chabert, même si de ce côté-là, je crains que ce ne soit peine perdue. Mais en tout cas, on va continuer à faire entendre les arguments. Ce qui est sûr aussi, c'est que les économies et les restrictions budgétaires, ça vaut pour certains, mais pas pour tout le monde. Puisque voilà, nous, comme on le redit régulièrement, hein, si Laurent Wauquiez veut vraiment faire des économies, nous, on a des idées, hein. Quand vous prenez les 132 millions d'euros affectés au projet d'autoroute A45 entre Lyon et Saint-Étienne, on pourrait faire beaucoup moins cher avec l'autoroute existante et encore mieux en développant le TER entre Lyon et Saint-Étienne. Si vous prenez les 900 millions d'euros pour le Lyon-Turin, alors qu'il y a des alternatives beaucoup moins chères sur la ligne existante. Enfin, si vous mettez ça bout à bout, des économies, il y en a à réaliser. Et puis, il faut quand même aussi le dire, il y a une forme de clientélisme qui est en train de se mettre à l'œuvre en région, puisque là aussi, les restrictions ne sont pas pour tout le monde. En 2017, là, sur l'année qui vient de s'écouler, la ville du Puy-en-Velay, qui est la ville de Laurent Wauquiez, dont il a été maire pendant très longtemps et sur laquelle il continue à tirer beaucoup de ficelles, elle a perçu sur l'année 2017 plus de 15 millions d'euros, ce qui fait à peu près 826 euros par habitant. À titre d'exemple, une autre ville, Albertville, a touché 1,5 million d'euros, donc 83 euros par habitant, c'est-à-dire 10 fois moins. Voilà, donc il y a quand même des choses un petit peu étranges.
Elle n'est pas plus grande, Albertville, en plus ?
Dans les affectations. Oui, mais alors, tout ça ne se fait pas trop par la taille des villes, mais plutôt par leur couleur politique ou le risque pour les prochaines élections municipales qu'un certain nombre de villes changent de majorité.
Voilà, bon, bah, la Savoie, moi j'y ai vécu un petit peu, hein, c'est un secteur assez sombre et triste, cet endroit-là, qui est abandonné de tout et de tous. Une question sur la région Rhône-Alpes, vous qui avez quand même été élu sur la mandature d'avant, non pas pour peut-être la glorifier, c'est pas la question, mais j'avais le sentiment que Rhône-Alpes faisait partie des régions qui étaient en avant, en pointe en France, souvent citées, PACA, Île-de-France, Rhône-Alpes, voilà, notamment sur la biodiversité, sur même la Silicon Valley qu'on a à Grenoble, enfin bon, des détails comme ça. Donc on est en train aussi de perdre complètement cette avance, là, vous parliez.
Alors effectivement, bon, moi j'ai
pour notre gloriole,
honnêtement, j'étais pas super fan de la majorité précédente non plus, et il y avait beaucoup de critiques à émettre. Mais quand même, il faut effectivement pas tout mélanger. C'est clair que, très honnêtement, pour avoir vécu la mandature Kéran et pour vivre la mandature Wauquiez, ça n'a absolument rien à voir. Sous le mandat Kéran, le fait qu'il y ait une majorité multiple composée du Parti Socialiste, mais aussi d'Europe Écologie Les Verts, a quand même permis beaucoup, beaucoup d'avancées sur les questions d'environnement, de biodiversité, d'économie d'énergie, d'énergie renouvelable. Enfin, il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont été mises en place, et aussi sur le plan social, puisque c'est sous la pression des élus écologistes que la majorité socialiste avait mis en place le tarif illico solidaire à 90%, par exemple, pour les plus précaires, qui est une des premières mesures sur lesquelles Laurent Wauquiez est revenu. Et je dois dire que bon, c'était assez amusant là, de voir pendant ce budget le Parti socialiste réclamer de revenir au tarif illico solidaire, quand on sait la bataille que ça avait été de leur imposer ce tarif illico solidaire quand eux-mêmes étaient aux manettes. Voilà. Mais bon, peu importe, c'est clair qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle majorité, on est en train de régresser sur les parcs naturels régionaux, sur l'éducation à l'environnement, sur le social, j'en parle même pas, sur énormément de sujets. Les progrès et les avances qui avaient été prises lors du mandat précédent, on est effectivement en train de les perdre.
On parle maintenant de cette convention TER, Corinne Morel-Darleux. Alors le TER, c'est le train express régional, c'est pourquoi pas une tarification éco-solidaire. C'est aussi le train qu'on voit passer partout, même à Die, et des cars aussi, bien sûr. Donc gros sujet. Déjà, peut-être pour rappeler quand même, il y avait eu une délégation comme ça de l'État à dire voilà, vous vous occupez de vos transports au niveau de la région.
Alors effectivement, la convention TER, en fait, c'est une convention qui est signée donc entre la région et la direction régionale de la SNCF, puisque il y a une sorte de délégation effectivement de la part de l'État vers les régions qui sont ce qu'on appelle autorité organisatrice des transports. Donc voilà, la région a cette responsabilité-là, et donc c'est une forme de contrat avec la SNCF qui fixe des niveaux d'objectifs en matière de services aux usagers, de ponctualité, de nombre de trains, enfin voilà, il y a un cahier des charges à respecter. Cette négociation, elle a été très compliquée. La nouvelle convention TER qui a été adoptée, on aurait dû l'adopter il y a 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on est placé en quelque sorte sous la tutelle du préfet et de l'État, parce que la région n'avait pas réussi à aboutir dans ces négociations. Bon, donc c'est déjà, il faut le dire, une bonne chose qu'on ait enfin une convention TER adoptée. Après, c'est vrai que Laurent Wauquiez s'est beaucoup vanté d'avoir tordu le bras de la SNCF en demandant des pénalités s'il y a des retards de train, en fixant des objectifs très ambitieux de ponctualité, de régularité, etc. Ce qui est très bien, sauf que quand on regarde d'un petit peu plus près, comme nous l'avons fait, le contenu de cette convention, on se rend compte que dans cette convention TER, en fait, il y a des obligations de résultats, mais il n'y a pas d'obligation de moyens. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, on demande à la SNCF de faire mieux, mais on ne lui demande pas de maintenir les effectifs en gare, de maintenir les guichets, de maintenir les gares, de maintenir les petites lignes existantes, enfin tout ce qui fait aussi le service aux usagers. Donc aujourd'hui, avec cette convention TER, on n'a aucune garantie que dans les heures creuses, les trains ne vont pas être remplacés par des cars. On n'a aucune garantie qu'on ne va pas avoir des fermetures de guichets, par exemple ici, sur la ligne entre Valence et Vennes. Donc il manque quand même énormément de garanties pour pouvoir s'en satisfaire. Mais on a quand même réussi à obtenir, là, pendant cette session, 2 choses. D'abord, on était plusieurs à avoir déposé des amendements pour remettre en place un dispositif qui était assez intéressant et qui avait été abandonné, qui est les comités de ligne, c'est-à-dire ces comités pour chaque ligne de train qui permettaient de réunir à la fois la SNCF, mais aussi les usagers, les acteurs du territoire, les élus locaux, pour se mettre d'accord. Moi, j'ai un exemple que je reprends de temps en temps pour montrer l'intérêt de ces réunions. Je me souviens très bien d'un comité de ligne sur notre ligne de Die, où c'est le fait d'avoir été comme ça en réunion qui avait permis au lycée de Die d'indiquer à la SNCF que le dernier train le vendredi soir partait juste avant que les internes sortent de cours. Ce qui évidemment était un peu dommage, puisque du coup, ils se retrouvaient le bec dans l'eau, les pauvres. Et donc, on avait pu changer l'horaire pour que les internes, tout simplement, rentrent chez eux le week-end. Voilà, c'est des petits aménagements comme ça qui étaient possibles dans la concertation locale. Ces comités de ligne, ils ont été abandonnés depuis l'arrivée au pouvoir de Laurent Wauquiez. Et donc là, on a obtenu qu'ils soient réactivés dans les semaines qui viennent. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis la deuxième chose qu'on a obtenue, c'est un amendement qu'on a déposé avec le groupe du Rassemblement. Comme on ne peut pas fixer d'obligation de moyens dans la convention TER, on a trouvé une petite astuce et on a réussi à faire en sorte de rajouter une clause dans la convention qui dit en gros que si la SNCF supprime des effectifs, des guichets, des gares, la contribution de la région baissera d'autant en matière financière. Ça paraît logique, ça paraît tout simple, mais ce n'était pas dans la convention. Donc on l'a fait rajouter, ça n'empêchera pas malheureusement la direction régionale de la SNCF de sabrer, mais au moins ce ne sera pas financé par l'argent public de la région, quoi.
On va donc aller vers on ne sait pas trop quoi, peut-être des nouvelles fermetures de lignes. Est-ce que la région investit elle aussi dans l'équipement de ces gares ou pourrait faire pression dans des équipements au-delà de cette convention finalement ?
Alors malheureusement pour l'instant les gros efforts que fait la région en matière d'équipement, c'est des équipements en termes de caméras de vidéosurveillance dans les gares, de doublement de la police ferroviaire qui s'appelle la SUGE. Sachant que à côté de ça, elle est main dans la main avec la direction régionale de la SNCF pour supprimer la présence des agents à bord des trains, les contrôleurs. Donc on supprime des moyens humains et on rajoute des caméras à la place, sauf qu'une caméra n'est jamais intervenue en cas d'agression, contrairement à des agents de la présence humaine à bord. Donc voilà, ça c'est des thématiques sur lesquelles on continue à se battre en lien avec les cheminots et les usagers.
Cheminots et usagers qui prennent ça comment, cette convention TER-là ?
Du côté des cheminots, les réactions sont un peu dépitées parce qu'on fait croire... aux voyageurs qu'on va pouvoir faire mieux avec moins de moyens. Donc eux connaissent bien la réalité des choses et ils savent très bien que si aujourd'hui les trains sont en retard, s'il y a tous les dysfonctionnements qu'on connaît sur les TER, c'est pas parce que Laurent Wauquiez n'a pas suffisamment tapé du poing sur la table, c'est parce que concrètement il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez de cheminots dans certains endroits pour permettre les dépassements de trains, c'est parce que la SNCF rogne pour gagner en rentabilité sur les investissements dans le matériel roulant ou sur les rails. Enfin voilà, c'est tout ça, c'est là-dessus qu'il faudrait agir et c'est pas en faisant les gros yeux et en mettant des objectifs de pénalité qu'on va améliorer les choses si on change pas les choses à la base en termes de moyens et en termes de retour à un vrai service public. Aujourd'hui la SNCF est gérée comme une entreprise privée, donc elle essaye de rogner sur tous les coûts et donc elle investit moins et donc ça ne marche pas. Ce qui n'est pas une surprise, c'est le cas à chaque fois, partout, dans tous les pays et c'est malheureusement sur cette voie-là qu'on continue. Tout le monde sait que ces voies vont être ouvertes à la privatisation et à la concurrence dans les années qui viennent et la SNCF est en train de se désintéresser d'un certain nombre de voies de chemin de fer qui sont jugées pas assez rentables. Elle se fait elle-même concurrence, hein, d'ailleurs, en investissant dans la route. Donc voilà, on est aujourd'hui dans cette situation où la direction de la SNCF a fait le choix de la rentabilité, de la privatisation et n'assure plus une mission de service public. Mission de service public à laquelle la grande majorité des cheminots aujourd'hui sont encore, eux, très attachés.
Je vais être un peu encore la petite bête, grattée. Est-ce que Laurent Wauquiez a su taper du poing sur la table pour la ligne Lyon-Clermont ? Est-ce qu'elle, par contre, elle tourne bien, c'est propre, c'est nickel ? Elle passe par une certaine ville là-bas ?
Alors, j'ai pas le détail hein, sur, sur la ligne Lyon-Clermont. Donc, on va suivre effectivement de très près les différents travaux qui seront faits, à la fois avec un vrai regard inquiet sur l'étoile de Veynes, la ligne des Alpes et celle de Die, et puis avec un regard amusé mais vigilant sur le Lyon-Clermont, effectivement.
Voilà, pourquoi pas. Voici donc pour les deux sujets un peu particuliers qui ont donc agité cette plénière des 29 et 30 novembre. On passe à d'autres sujets. Corinne Morel-Darleux, l'hôpital de Die, quand même. Là, c'est incroyable. L'ARS, hein, donc, c'est aussi régional, mais bon, on s'est rendu compte...
Mais là, ça dépend de l'État voilà, et pas du Conseil régional.
C'est ça. Je l'avais appris dans une autre émission également. Vote la fermeture des services de maternité et chirurgie. Vous êtes un élu local aussi. La dernière fois, on avait parlé d'un vœu qui avait été pris, adopté même par la majorité et par tous les autres de cette région Auvergne-Rhône-Alpes contre la fermeture de ces petites structures. Où on en est ? Qu'est-ce que vous voulez nous en dire ?
Alors effectivement, c'était la dernière session au mois de septembre où il y avait eu une délibération pour lutter contre les déserts médicaux. Et j'étais intervenue à cette occasion pour parler évidemment du cas de l'hôpital de Die. Et Laurent Wauquiez m'avait dit à quel point il prenait ce sujet à cœur en donnant l'exemple, alors malheureusement pas de l'hôpital de Die, mais d'un autre hôpital, l'hôpital de Saint-Agrève en Ardèche, qui d'ailleurs a effectivement bénéficié d'une dérogation exceptionnelle de la part de la région, enfin qui est allée au-delà...
De la part de l'ARS ?
Du Conseil régional. Okay. C'est vrai qu'il faut être bien précis, c'est-à-dire que le Conseil régional, normalement, n'a pas de compétence sur les hôpitaux. C'est une compétence d'État qui dépend donc des agences régionales de santé et la région n'a pas à se substituer à l'État. Mais pour ce petit hôpital d'Ardèche, Laurent Wauquiez avait fait une exception pour lui permettre justement d'obtenir son autorisation de renouvellement de la part de l'ARS. Il a donné une enveloppe financière pour aider à la rénovation. Comme quoi, quand on veut, on peut. Il se trouve que là, j'ai de nouveau interpellé lors de cette session Laurent Wauquiez, du coup, sur le cas de l'hôpital de Die, puisque là, on est dans une situation d'urgence absolue. On apprend la fermeture qui a été encore avancée du 1er janvier au 22 décembre, sans aucune solution alternative mise en place. Bon, manque de chance, mon intervention est arrivée à un moment donné où Laurent Wauquiez était en train de négocier avec le groupe des centristes et n'était donc pas en session. Donc, je n'ai pas eu le bonheur d'entendre sa réponse. Néanmoins, bon, voilà, l'interpellation a été faite. Mais c'est vrai que c'est pas tant là, pour le coup, au niveau du Conseil régional qu'au niveau de l'État, de l'ARS et donc aussi de notre député de circonscription, Célia de Lavergne. Parce que normalement, le fait d'avoir un député de la même couleur que la majorité gouvernementale, c'est quand même censé... avoir aussi cet avantage qu'elle peut parler à ses collègues, ministres, présidents, qui sont du même parti qu'elle, hein, La République En Marche. Là, malheureusement, on est face à un désert politique, puisque visiblement, la grande majorité de ces élus qui ont tous, ces 10 dernières années, à un moment donné, juré la main sur le cœur qu'ils défendraient jusqu'au bout l'hôpital de Die, eh bien, sont en train de démissionner et d'être aux abonnés absents. Moi, je dois dire que je le regrette profondément, d'abord parce que ça donne une image des politiques, une fois de plus, très décevante pour la population, et puis d'autre part, parce que je suis très inquiète sur l'avenir du Diois. Quand on voit qu'on nous supprime des contrats aidés à l'école publique de Chabestan, ailleurs dans la vallée, à l'USCDD, enfin voilà, un peu partout, quand on voit qu'on n'a toujours pas de garantie et d'assurance sur le maintien des guichets, des gares sur la ligne de train. Et quand on voit maintenant qu'on veut nous supprimer en plus la maternité et la chirurgie d'urgence, on peut vraiment s'interroger sur la volonté de tous ces gens de transformer cette partie du Vercors en désert. Parce que la réalité, c'est que la plupart des gens qui viennent s'installer ici, et notamment les jeunes couples, les jeunes familles, ils le font parce que justement, il y a une gare, parce qu'il y a une école, parce qu'il y a une cité scolaire, parce qu'il y a un hôpital, parce qu'il y a un théâtre, parce qu'il y a un cinéma. C'est ça qui fait qu'on vient s'installer à Die. Donc si petit à petit on nous supprime tous ces services de proximité, eh ben, clairement, à un moment donné, les gens ne viendront plus s'installer et les gens partiront. Donc voilà, je dois dire que ça commence à devenir franchement agaçant, pour ne pas dire plus, d'entendre tous ces grands discours sur la ruralité au moment des élections. Et quand on est confronté aux difficultés directes, de voir à quel point le manque de courage politique fait écho à ces grandes envolées lyriques sur la ruralité. Parce que là, on a un problème concret, précis, avec des réponses à apporter. Et voilà, chaque élu est aujourd'hui mis face à ses responsabilités et le sera demain, quand des femmes enceintes devront faire parfois plus d'une heure et demie de route sur des petites routes de montagne en plein hiver pour aller accoucher à Valence.
Ouais, ce sera même pas elles qui le feront, ce sera des pompiers et puis ils se galèreront tout autant. Ces élus, je voudrais qu'on les cite, hein. Il y avait notamment M. Trémollet, M. Matteron, M. Guillaume qui était allé défendre à un moment donné l'hôpital au plus haut.
Hervé Mariton
d'ailleurs, oui.
Alors je ne sais pas si tous ces élus seront là samedi pour la grande manifestation qui a lieu devant l'hôpital de Die à 10h, je l'espère. Sincèrement, parce que pour le coup, toutes ces personnes qui passent leur temps à me dire à moi que sur les thématiques locales, il faut dépasser les clivages gauche-droite, que quand on se réunit pour l'intérêt du territoire, il n'y a plus de différence de parti. Eh bien, ok, là, pour une fois, j'ai envie de les prendre au mot et de leur dire, voilà, sur le maintien de ces services à l'hôpital... ok, il n'y a plus de clivage gauche-droite et moi je serais ravie de voir Hervé Mariton à cette manifestation de samedi.
Voilà, juste comme je voulais comme ça au passage rappeler qu'en ce moment la communauté de communes du Diois et la ville de Die sont en train de se lancer dans un programme de revitalisation du centre-ville qui va complètement à l'encontre il me semble d'une fermeture d'un tel service. Encore une fois, M. Matteron est aussi le défenseur de notre élevage, de notre pastoralisme. Il est un peu le fer de lance localement pour ça. Quid de cette... on va vers l'exode rural là selon vous ?
Bah, écoutez, il y a une vraie inquiétude qui est largement partagée hein, d'ailleurs dans la population et aussi par les commerçants. Hein, et beaucoup là ont ressorti leurs panneaux de défense de l'hôpital, affichent les portraits de toutes ces générations qui sont nées à Die. Donc la mobilisation, elle est réelle de la part d'habitants, de commerçants qui n'ont pas tous les mêmes opinions politiques. On voit bien que là, effectivement, on est vraiment sur un sujet qui touche tout le monde. On a effectivement des élus qui sont sincèrement attachés au fait que le territoire continue à vivre, au pastoralisme, à la ruralité, effectivement, comme vous l'avez mentionné. Je crois que c'est des engagements sincères, mais il faut juste là qu'ils aillent jusqu'au bout. Et je voudrais préciser qu'il n'y a pas que la maternité. Il y a aussi la chirurgie d'urgence. On est dans un territoire de montagne avec une section sport nature au lycée. On sait qu'on est dans un territoire où voilà, on a des risques d'accidents accrus en montagne.
Une forte activité agricole aussi.
Et que les chances de survie quand vous êtes avec une plaie ouverte, elles dépendent de la rapidité d'intervention. Donc ce n'est pas que les femmes enceintes et leurs conjoints qui sont concernés. C'est vraiment l'ensemble de la population. Et donc voilà, il faut vraiment... Que la mobilisation soit massive samedi, parce que d'abord parce que ça peut faire réfléchir les décideurs. Ça a déjà été le cas par le passé. Hein. À deux reprises, j'ai plus les années en tête, en 1986 et en 2008, il me semble, où il y avait eu là aussi des annonces de fermeture et puis finalement l'hôpital a pu continuer à fonctionner. Et puis au-delà de ça, il faudra aussi que l'ARS, que la direction de l'hôpital, se donne les moyens de le faire fonctionner cet hôpital, parce que vous connaissez le dicton, hein, quand on veut tuer son chien on dit qu'il a la rage.
Oui, c'est ça.
Il faut aussi bien analyser ce qui s'est passé depuis des années où on a laissé l'hôpital péricliter, où aucune réponse n'a été donnée à des praticiens qui ont postulé pour venir à Die. Voilà, il y a aussi eu une démarche délibérée de la part de certains
et
de faire en sorte
marché,
que ça se dégrade,
voilà,
que les gens aillent se faire se soigner ailleurs,
oui,
pour pouvoir le fermer cet hôpital.
Oui, la population même est on vient à dire, bah oui, de toute façon, c'est une plaie, c'est pas un mal que ça se ferme. Quoi.
Exactement,
là, hein.
C'est un processus délibéré de dégradation. Des choix politiques différents peuvent être faits. On peut redonner des moyens à cet hôpital de fonctionner de bonne manière, en toute sécurité pour les patients. On peut avoir, et c'est le cas déjà aujourd'hui, des chirurgiens, des sages-femmes qui pratiquent aussi ailleurs et qui donc augmentent le nombre d'actes qu'ils pratiquent par an. Il y a plein de possibilités. Les possibilités, elles existent. Il n'y a pas de fatalité à la fermeture de ces services, si tant est qu'il y ait une volonté politique, évidemment, de maintenir ce service absolument essentiel sur le territoire du Diois.
Célia de Laverne, donc la députée, a été interpellée assez vivement par ce collectif de défense de l'hôpital d'Audi et par des usagers, et notamment des personnes touchées par cette fermeture de maternité. Une vidéo à voir circuler sur Internet. Elle s'est aussi fendue d'un communiqué assez complexe. Est-ce que je pourrais vous demander de nous faire comprendre ce qui a été dit là-dedans, et notamment, encore une fois, quelque chose qui embrouille bien les gens, c'est que finalement on ferme, mais on va quand même investir de l'argent, transformer des services, faire d'autres propositions. Du coup, on ne comprend pas. Il est fermé, pas fermé? Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Alors effectivement, j'ai lu cette longue déclaration de la députée, parce que ça faisait déjà quelques jours que je guettais sur son compte Twitter et sur sa page Facebook et que j'attendais une réaction qui ne venait pas, ce qui était assez surprenant. Donc déjà, c'est une bonne chose qu'elle ait fini par réagir. Après, c'est vrai que c'était une déclaration très longue et pleine de circonvolutions, où on sent bien que la députée n'est pas très à l'aise avec cette décision, ce qui est tout à son honneur, sauf qu'il faudrait maintenant que ça se transforme en acte, et pas juste avec cette manière d'excuser les décisions prises tout en disant qu'elle n'est pas d'accord avec, mais que quand même il faut s'y résoudre, ce qui est effectivement assez difficilement compréhensible. Après, ce qu'elle dit sur le fait qu'il va y avoir des financements, c'est qu'en fait, ce qui a été dealé, entre guillemets, par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, c'est qu'en gros, elle nous dit, voilà, on va vous fermer donc cette maternité et la chirurgie d'urgence, mais en contrepartie, en même temps, comme ils disent là-haut, on va quand même vous donner des choses. Il va y avoir un centre pour accueillir les jeunes mamans qui seront allées accoucher ailleurs. Hein, donc elles pourront revenir avec leurs nourrissons.
Elles pourront se préparer avant et revenir
après. Et on va leur fournir un hélicoptère qui leur permettra d'aller accoucher ailleurs plus vite. Et puis on va vous donner de l'argent pour rénover l'hôpital. Ce qui est... Bon, d'abord une manière de un peu boutiquière, hein, de faire les choses, d'essayer. Enfin voilà, moi je sais pas, j'ai toujours l'impression un peu qu'on essaye de nous acheter quand on ferme des services et que à la place on donne de l'argent que personne n'a jamais demandé pour rénover l'hôpital. C'est quand même un peu surprenant, parce que rénover l'hôpital, si on n'a plus de raison de s'y rendre, je vois pas trop l'intérêt. L'hélicoptère, enfin bon, déjà, j'ai un enfant, je sais ce que c'est que d'être enceinte et d'accoucher, et je peux vous dire que l'idée d'être en plein travail dans un hélicoptère, je le souhaite vraiment à personne, d'autant qu'un hélicoptère ne prendra pas en charge des patients ou des femmes enceintes dont l'état n'est pas stabilisé, prendra pas cette responsabilité-là, pas plus que le SAMU, donc ça ne résout pas toutes les questions. Voilà, tout ça n'est pas sérieux, ça ne répond absolument pas ni à la question, ni aux besoins, alors qu'une fois de plus, on a honnêtement, enfin on a tout entre les mains pour relancer l'activité de cet hôpital, le remettre dans de bonnes conditions de fonctionnement. Avec une autorisation de 5 ans, on sait qu'il y a des chirurgiens, des gynécologues qui sont prêts à venir ici, qui sont prêts à venir s'installer ici,
évidemment,
à y faire leur travail de bonne manière. Oui. Et le risque que vous prenez aujourd'hui en allant vous faire soigner à l'hôpital de Die, il est bien moins élevé que le risque que prendront des accidentés ou des femmes enceintes à aller jusqu'à Valence pour se faire soigner ou pour mettre au monde un bébé. C'est une évidence, et c'est vraiment ça qu'il faut continuer à marteler de manière urgente dans les jours qui viennent, pour que cette décision absurde et dangereuse pour l'avenir soit annulée.
Au-delà de l'évidence, est-ce qu'il existe des statistiques régionales qui montrent, dans d'autres endroits où il n'y a pas ce service-là, des distances très très longues, j'imagine, des problèmes qui arrivent?
À ma connaissance, il n'y a pas de statistiques. Je pense que malheureusement, et c'est probablement ce que certains décideurs ont dans la tête, il est plus facile d'avoir des statistiques d'incidents dans un hôpital que des statistiques d'incidents lors du trajet vers un autre hôpital. Je pense que, du coup, peut-être que c'est un risque plus acceptable qu'il y ait des incidents sur le trajet plutôt que dans l'hôpital. Peut-être que c'est une des raisons qui explique cette décision. En tout cas, pour moi, c'est une mauvaise raison, de manière très claire, qui est... absolument malencontreuse et une fois de plus dangereuse pour la suite.
Rendez-vous samedi 2 décembre à partir de 10h pour cette manifestation. Peut-être la dernière, alors c'est le moment de se bouger. En tout cas, si vous êtes du Diois ou que vous appréciez ce secteur, merci pour ça, Corinne Morel-Darleux. On passe à vos déplacements. Hein. Vous êtes allé en Corée du Sud, rencontrer plein de gens, voir une station de ski sans neige, enfin tout ça.
Oui, alors bon, c'est vrai que là, je dois dire, il va falloir que je me calme un peu sur les déplacements parce que je suis en train d'exploser mon bilan carbone de manière absolument honteuse.
Oui, c'est ça.
Mais je ne prends plus de vacances à l'étranger, du coup, parce que j'ai limité, si on peut dire, mes voyages à des déplacements politiques qui me paraissent importants et j'en refuse encore beaucoup. Et celui-là l'était, puisque j'ai été donc invitée en Corée du Sud par différentes organisations qui organisaient un forum sur les collectivités locales et le rôle des collectivités locales en lien avec la société civile pour mettre en place des politiques intéressantes pour la population. J'y suis allée pendant 10 jours et je peux vous assurer que j'ai rentabilisé le déplacement parce que j'ai eu un rythme absolument délirant sur place de rencontres, de réunions publiques, de conférences. J'en étais à des journées de 15 heures avec deux villes différentes par jour. C'était absolument passionnant parce que j'ai rencontré des syndicalistes, des militants politiques, des élus aux futures élections locales de l'an prochain en Corée du Sud, des gens qui se battent contre les bases militaires américaines, des gens qui se battent pour protéger la montagne, notamment dans le cadre des futurs Jeux Olympiques d'hiver qui vont avoir lieu en Corée du Sud et qui dévastent là-bas aussi les montagnes, des épiceries associatives, des responsables de circuits courts et d'AMAP, enfin plein de thématiques finalement très proches de celles qu'on défend ici. C'était donc très intéressant et surtout c'était très important pour eux parce que la région pour laquelle ils m'ont demandé de venir, c'est notamment qu'il faut savoir qu'en Corée du Sud, il y a encore une loi dite de sécurité intérieure qui interdit de prononcer le mot socialisme ou écosocialisme. Oui. C'est quelque chose qui peut vous mener en prison. Par contre, quand c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur qui le dit, ça va. Ah. Et donc, comme eux voulaient parler d'écosocialisme, ils m'ont demandé de venir le faire. Et il se trouve que j'ai effectivement rencontré beaucoup trop de gens et de militants qui sortaient pour certains tout juste de prison. Quand je dis tout juste, c'est vraiment, j'ai le souvenir notamment d'une rencontre particulièrement touchante avec un camarade qui était sorti de prison 2 jours plus tôt. Et tous ces gens se sont retrouvés en prison parce qu'ils avaient participé à une manifestation pour le droit d'expression, pour la pluralité démocratique, sous le règne de l'ancienne présidente corrompue qui a réussi à être renversée par la révolution des bougies l'année dernière. Donc voilà, ils sont dans une période de nouvelle ère. Il y a un nouveau gouvernement qui est plus progressiste. Il y a des élections locales qui vont se tenir l'année prochaine. Il y a un changement de constitution dans l'air. Et donc, c'était vraiment important de pouvoir être là à ce moment-là, d'avoir tous ces échanges et de faire en sorte que voilà, la solidarité internationale soit concrète. Et puis du coup, j'ai essayé de communiquer là-dessus parce qu'eux demandent vraiment à ce que du coup leur lutte s'internationalise, qu'elle soit connue au-delà de la Corée du Sud. Donc j'ai fait un papier sur Mediapart et un autre sur Reporter. J'ai communiqué sur mon blog pour justement essayer de faire connaître au plus grand nombre ce qui se passe aujourd'hui en Corée du Sud et les batailles qui y sont menées.
Voilà, parce qu'on s'imagine bien qu'il y a des mouvements sociaux ou éco-socialistes un peu partout dans le monde, mais ce n'est pas forcément ce qu'on entend de la Corée, sûrement pas du Nord, bien sûr, mais du Sud non plus. Et puis, bon, on ne va pas parler maintenant de leur relation avec leurs voisins là-haut. Vous allez vous déplacer aussi en Turquie une nouvelle fois
pour oui. Tout à
cette
fait.
Suite,
oui, là, on est à la limite de l'acharnement militant, mais vu l'acharnement politique qu'il y a en face, je crois que ça le vaut. C'est effectivement donc la 3e audience pour le procès d'une députée est cofondatrice du HDP, qui est la troisième force politique en Turquie, qui est une force progressiste de gauche qui défend la laïcité, le féminisme, le socialisme, l'écologie et la démocratie, très proche de ce qu'on peut défendre ici en France. Elle est emprisonnée, détenue en attente de son procès depuis un an maintenant, avec un autre député qui était également coprésident du HDP. Ils passent tous les deux à nouveau en procès ces 6 et 7 décembre à Ankara. Ils risquent respectivement 83 et 142 ans, 142 ans de prison. Et donc je suis déjà allée aux deux premières audiences, les deux fois la délégation de mission d'observation internationale a été interdite d'accès et expulsée du tribunal, ce qui est contraire à toutes les règles internationales en vigueur. Cette fois-ci, nous avons déposé officiellement une demande d'accréditation auprès du consulat de Turquie. À ce jour, nous n'avons toujours aucun retour, mais nous allons quand même nous y rendre, parce que c'est aussi une manière à la fois de témoigner notre solidarité, mais aussi de faire pression sur les autorités turques de M. Erdogan pour montrer qu'il ne peut pas faire n'importe quoi loin des regards étrangers dans son pays. Et donc, on va être à nouveau une délégation internationale avec des observateurs d'ONG de défense des droits de l'homme, avec des élus de plusieurs pays, notamment européens, comme les dernières fois. Et j'espère que cette fois-ci, on pourra assister à l'audience, assister au procès et jouer notre rôle d'observateurs internationaux, comme le prévoient les conventions internationales que la Turquie elle-même a signées.
Ainsi se termine ce 15e mandat de compte-rendu radiophonique avec et chez Corinne Morel-Darleux. On se retrouve en 2018 d'abord avec une commission permanente le 18 janvier.
Oui.
Donc on fera ce bilan. Et puis la prochaine plénière, c'est carrément en mars, fin mars, le 29.
Oui, tout à fait. Bon, on espère qu'on aura d'autres sessions plus rapprochées vu le nombre de dossiers en attente qui mériteraient de passer rapidement. Mais pour l'instant, il faut bien reconnaître que nous avons un agenda régional sur le premier semestre très léger.
Bon, voilà, l'occasion donc de partir à l'étranger. Merci, Corinne Morel-Darleux.
Merci à vous.
Interview. Okay, the bird.
L'interview du jour.